en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président François Dorcival, un grand merci pour votre invitation. Merci, Monsieur le Vice-président Georges-Henri Soutou, Monsieur le Secrétaire perpétuel Jean-Robert Pitt. Merci, Mesdames et Messieurs les académiciens, pour votre accueil. L'idée d'une opinion européenne est une extension de la notion d'opinion publique, celle qui intéresse l'Académie des sciences morales et politiques. Il serait surprenant de traiter de l'opinion européenne sans expliciter ce que l'on entend par « opinion publique ». Je voudrais le dire en quelques mots en rappelant que la formule « opinion publique » combine l'idée d'opinion et l'idée de publicité. L'opinion est un point de vue sur le monde. Ce point de vue est plus ou moins fondé en raison, plus ou moins documenté. Il part de l'opinion spontanée, le préjugé, l'idée reçue, jusqu'à ce point où ses fondements accèdent à une telle solidité qu'il change de statut pour se muer en une vérité admise par tous. La publicité, elle, doit s'entendre de trois manières différentes, qui non seulement ne sont pas exclusives les unes des autres, mais qui sont imbriquées les unes dans les autres. D'abord, une opinion est publique en ce sens qu'elle est partagée par une pluralité d'individus. C'est ce que j'appellerais une opinion commune. Ensuite, une opinion est publique en ce sens qu'elle porte sur les affaires publiques, qu'elle concerne la vie de la cité. Enfin, une opinion est publique en ce qu'elle est rendue publique, en ce qu'elle est publiée. L'opinion publique est une opinion rendue publique parce qu'elle porte sur les affaires publiques et qu'elle est commune à un certain nombre de personnes. Et je défendrai ici que l'on peut dériver l'idée d'opinion européenne d'une telle définition de l'opinion publique. Mais cela suppose la possibilité de repérer des opinions non seulement communes aux Européens, mais également propres aux Européens. Cela suppose des instruments, des institutions, des procédures qui vont permettre de repérer ces phénomènes d'opinion, de les observer, de les quantifier et même de les rendre publics. C'est l'ensemble de ces instruments que l'on peut ranger dans la catégorie du baromètre. Les uns par destination directe, il existe en effet des mesures barométriques de l'opinion européenne, les autres par destination indirecte, par l'usage, puisque leur étude complète notre information sur l'état de l'opinion, les mobilisations collectives, les réseaux sociaux ou encore les élections. Il existe au moins une triple détermination de l'opinion européenne. D'abord une substance civilisationnelle, puis une convergence politique progressive, et enfin la création de l'Union européenne. L'opinion européenne plonge, je le crois, ses racines dans une substance civilisationnelle qui nous est commune. Des éléments religieux la composent, le judéo-christianisme, philosophique, l'humanisme ou l'individualisme, le rationalisme scientifique, mais aussi des éléments politiques, le parlementarisme ou économique, le libéralisme. Ce sont des exemples que l'on pourrait convoquer pour documenter la forme européenne de civilisation. Le critère de vérification serait ici que les différences relevées à l'intérieur de l'espace européen entre les sociétés qui le composent sont moins grandes que les différences relevées entre l'ensemble européen et le reste du monde. Cependant, une approche culturaliste, civilisationnelle, rend parfois difficile ou mouvante la définition des limites géographiques, comme elle rend difficile la distinction entre un modèle européen et un modèle occidental, au moins en raison de la diffusion du modèle européen à travers le monde, notamment par le biais de la colonisation, des mouvements d'émigration, des échanges économiques, culturels et sociaux. Et je voulais ici citer très brièvement Denis de Rougemont, 28 siècles d'Europe, L'Europe a exercé dès sa naissance une fonction non seulement universelle, mais de fait universalisante. Elle a fomenté le monde. Deuxième point est la convergence politique et institutionnelle qui s'est progressivement réalisée. Par son ancrage civilisationnel, l'idée d'une opinion européenne résulte aussi de la convergence politique et institutionnelle vers une forme de régime, l'état de droit, l'humanisme juridique, la séparation des pouvoirs ou encore la consécration de la souveraineté populaire, soit une forme de gouvernement marquée par une organisation de la limitation du pouvoir. Ce cadre politique est lui-même le produit de cette tradition et un legs de cet héritage en tant qu'il consacre la liberté humaine et la liberté des peuples. Enfin, troisième point ici, le projet politique d'une Union européenne. L'opinion européenne résulte également de ce processus de rapprochement qui s'est opéré à travers le projet d'une Union européenne. Je voudrais, ça n'est pas l'objet ici de la communication, mais je voudrais tout de même faire signe vers l'ancienneté de ce projet, trop souvent ramené à l'immédiate après-guerre, trop souvent résumé au projet de ne pas se faire la guerre. Il y a dans la Respublica Romana, comme dans la Respublica Christiana, et dès le 5e siècle, un projet d'Europe. Au sein de l'Europe carolingienne, il revient au pape la direction de l'Église universelle et au roi l'autorité sur l'Empire. De cette séparation, première séparation entre le sacerdotum et le regnum, quelque chose advient qui est un des fondements, une des fondations de l'Europe. Nous sommes, dès le 5e siècle, au-delà de la seule coexistence géographique, dans une communauté de culture, communauté de sens, dans un espace qui se pense comme un vaste ensemble politique doté d'un idéal. Sa mission est alors spirituelle, l'Empire est chrétien. C'est d'ailleurs ainsi que s'est accompli le premier élargissement à l'est de l'Europe. Les invasions barbares ont été contenues par le fer, mais davantage absorbées par la conversion au catholicisme. L'Europe de l'Est se convertit ainsi, par exemple, vers l'an 1000, la Hongrie, dont le souverain, le futur Saint-Étienne, va convertir d'un coup d'un seul tout son peuple. Et je crois qu'il faut faire ce rappel, si l'on veut mieux comprendre la nature du contentieux qui peut aujourd'hui traverser l'Europe et les incompréhensions mutuelles, en particulier du côté de l'Europe de l'Est. C'est la communauté civilisationnelle, puis la convergence des formes de régime qui a débouché à ce jour sur l'avènement d'une union pensée il y a si longtemps. C'est dans ces profondeurs successives que la possibilité d'une opinion européenne plonge ses racines. Le résultat est présent, une organisation politique sans équivalent. L'Union européenne, dans le prolongement de la communauté européenne, accueillera un nombre croissant de pays depuis l'association des 6 fondateurs en 1957 jusqu'à l'expansion à 28 pays en 2013 avant de revenir, semble-t-il, à 27 pour la première fois dans l'histoire de cette Union. L'Union européenne n'est ni un État ni une nation. Elle exerce cependant un pouvoir de type gouvernemental. Place son action dans le cadre d'un droit propre et prend ses décisions au terme de processus politiques impliquant les peuples et les nations. Au-delà des traits culturels communs que l'on doit à l'histoire, les Européens membres de l'Union ont en partage un ensemble d'institutions se superposant aux institutions nationales de chacun des États dont ils sont les ressortissants. Un Parlement européen élu au suffrage universel depuis 1979, nous allons en quelque sorte en fêter le 40e anniversaire, une citoyenneté européenne ouvrant sur un droit de vote et d'éligibilité partiellement détaché de la nationalité, ce qui est une première, si l'on est en tout cas ressortissant de l'un des États européens, une monnaie unique, commune à 19 des 27 États membres, mais qui n'en est pas moins devenue la monnaie européenne en Europe et dans le monde. une production abondante de normes communes et supérieures aux droits nationaux, des institutions régulatrices telles que la Commission, le Conseil des ministres, le Conseil européen, un budget propre, une capacité à produire des politiques publiques sectorielles, etc. C'est dans ce cadre aussi profond que puissant qu'il convient de poser la question de l'opinion européenne. Parce qu'elle est le résultat d'un projet politique et qu'elle représente un ensemble politiquement défini, l'Union européenne devient un espace pertinent pour fonder la thèse de l'existence d'une opinion européenne. Mais l'idée d'une opinion européenne suppose qu'il existe des opinions communes aux Européens à l'intérieur d'un espace politiquement ordonné qui est l'Union européenne. Mais une opinion pourrait se révéler commune aux Européens tout en étant partagée par des sociétés non européennes. Il faudrait alors davantage parler d'une opinion supranationale, occidentale, voire planétaire. Ceci conduit donc à distinguer d'une part les enjeux proprement européens qui suscitent par nature des opinions européennes, par exemple l'euro ou les élections européennes, et d'autre part les enjeux non spécifiquement européens à propos desquels il est possible de mesurer un point de vue spécifiquement européen. On dira d'une opinion qu'elle est européenne si elle est à la fois partagée par un certain nombre d'Européens et peu ou prou le propre des Européens, soit parce que la question suscitant l'expression d'une opinion ne fait pas sens en dehors de l'Union, soit parce que l'opinion des Européens apparaît suffisamment spécifique. C'est notamment grâce aux enquêtes d'opinion et tout autant à la publication de leurs résultats qu'une opinion collective peut être qualifiée d'opinion européenne. Dans nos sociétés démocratiques, les sondages ne sont pas l'unique opérateur de la mise en visibilité des opinions collectives. On peut citer les médias, les manifestations, les pétitions, qui représentent autant de passages alternatifs vers la visibilité de l'espace public. La mesure est une chose, la publicité de la mesure en est une autre. Je voudrais ici évoquer trois types de mise en visibilité, trois types d'instruments. Les enquêtes d'opinion par sondage, l'émergence de mobilisations collectives européennes et enfin les comportements électoraux. Les enquêtes d'opinion par sondage. Les enquêtes d'opinion par sondage permettent à la fois de repérer l'existence d'opinions communes, communes à un nombre plus ou moins grand d'Européens, et de révéler la singularité d'une opinion européenne par rapport à des opinions collectives qui parcourent les sociétés non européennes. Les enquêtes menées par l'Eurobaromètre depuis 1973 produisent des données d'opinion d'une richesse sans équivalent. Le fondateur de l'Eurobaromètre, le français Jean-René Rabier, disciple d'Emmanuel Mounier, a témoigné de son intention initiale. Je le cite. « L'objectif était, d'une part, de mieux connaître l'opinion pour orienter la politique d'information » et, d'autre part, de contribuer à révéler les Européens les uns aux autres. Il s'agissait non seulement de connaître l'opinion publique européenne, mais également de faire connaître à cette opinion ce que les citoyens et les citoyennes de tel ou tel pays pensaient sur les mêmes thèmes. La réalisation d'études quantitatives régulières dans un aussi grand nombre de pays entraîne, il faut le souligner, même si je passe vite sur ce point, des coûts considérables. Ce fait explique en partie la rareté de l'information dont nous disposons sur l'état de l'opinion européenne. Autant une enquête d'opinion nationale peut être prise en charge à partir, disons les chiffres, d'un budget de 10 à 15 000 euros, autant il faut compter 20 à 30 fois plus pour mesurer l'opinion au niveau européen. Ce n'est donc pas facilement à la portée d'un parti, d'une association, d'une église, d'une organisation. Et c'est une des explications, je dirais, du silence relatif de l'opinion européenne que la difficulté à la mesurer. Ces informations recueillies doivent permettre d'évaluer la singularité de l'opinion européenne par rapport à des opinions collectives extra-européennes. Si l'on veut, sur un fait planétaire ou qui dépasse l'Europe, mesurer la singularité de l'opinion européenne, il faut comparer les résultats obtenus en Europe avec des résultats obtenus dans la partie non européenne de notre planète. Les coûts, évidemment, augmentent d'autant, la difficulté augmente d'autant. On y arrive cependant, et il est régulièrement fait état de différences significatives entre l'opinion des Européens et l'opinion des non-Européens sur des questions qui les concernent les uns et les autres. Outre les enquêtes d'opinion par sondage, il faut signaler ici l'émergence de mobilisations collectives européennes. Il existe, même si elles sont rares, depuis quelques années, il existe des mobilisations syndicales, des mobilisations sociales à l'échelle de l'Europe, des euro-protestations, des euro-manifestations. Il y a eu au moins une marche européenne contre le chômage et la précarité. Il y a un processus d'européanisation des syndicats, même encore limité, des organisations non gouvernementales, du mouvement associatif en particulier. Et on pourrait développer ce point en observant les réseaux sociaux et leur contribution à ce processus d'européanisation du débat public. Je le laisserai de côté cependant. Je ne ferai que référence, mais rapidement, à un point clé qui a été particulièrement impressionnant et illustratif de cela, qui sont les grandes manifestations dont beaucoup ici avons le souvenir, les grandes manifestations en 2003 contre l'intervention militaire en Irak. Pour avoir étudié ce sujet de près, l'avoir documenté en produisant des données, il est apparu que pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, la préférence des Européens ne s'exprimait pas à travers une enquête d'opinion par sondage, mais dans des manifestations de rue. Et en particulier, là encore, pour passer très vite sur un sujet important, en particulier lors du 15 février 2003, qui est sans doute, ce 15 février 2003, qui est sans doute la plus grande manifestation dans l'histoire européenne. Et sans doute aussi, je le crois, dans l'histoire de la manifestation. Plus de 13 millions de personnes, au même moment, ont manifesté en Europe dans la rue contre l'intervention militaire en Irak. Pour être complet, il faudrait dire contre l'intervention militaire sans mandat de l'ONU, puisque là était la clé de la protestation des Européens. Certains auteurs, comme Jürgen Habermas, ont vu dans cette journée-là l'acte de naissance d'un véritable espace public européen. Enfin, je voudrais aborder, comme baromètre, les comportements électoraux. L'opinion et le vote, chacun le sait, doivent être distingués. L'opinion est un point de vue, le vote est une décision. On peut cependant regarder les résultats électoraux comme des indications sur l'état de l'opinion. Je veux rappeler à cette honorable assemblée que c'est à ce titre, et à ce titre seulement, qu'Émile Durkheim estimait utile pour l'État d'organiser des élections, dans le seul but de connaître l'état de l'opinion. Or, que nous disent les élections en Europe sur l'état de l'opinion européenne ? Et c'est le dernier point que je voudrais aborder, mesdames et messieurs les académiciens, qui concerne l'apparition d'une forme de cassure, comme une divergence au sein de l'opinion européenne qui se manifeste depuis quelques années et dont l'évolution future est très incertaine, mais sera sans doute très importante dans le cours de l'histoire qui vient. Considérons d'abord les élections générales, celles qui distribuent le pouvoir de gouverner au plan national. Depuis le traité de Rome de 1957, les élections générales dans les pays membres de l'Union européenne ont presque toutes été favorables à des majorités pro-européennes jusque vers 2017. Ce n'est pas rien. On peut compter au moins 315 scrutins nationaux qui se sont déroulés démocratiquement et qui, dans chaque pays membre de l'Union européenne, de façon répétée, donnaient la majorité à des gouvernants favorables à la poursuite de la construction européenne. Ce fait majeur, puissant, incontestable, n'est presque jamais souligné. De même, parmi les référendums portant sur l'Union européenne, très nombreux sont ceux, la quasi-totalité en fait, qui ont été favorables à l'Union. même si l'on a le souvenir de noms retentissants, en particulier le nom français au traité constitutionnel européen en 2005, suivi par le nom hollandais, néerlandais, qui d'ailleurs reposait sur des raisons presque diamétralement opposées. On observe un tournant que je situerai au milieu des années 90. Des partis développant un discours hostile à l'Union européenne soit se constituent, soit prennent de l'ampleur. Il est frappant de remarquer que au Danemark, le parti du peuple danois, en Suède, les démocrates de Suède, en Finlande, les vrais Finlandais, sont trois organisations nées la même année, en 1995. En France, on le sait, en 1988, Jean-Marie Le Pen réalise un véritable succès au premier tour de l'élection présidentielle avec plus de 14% des suffrages exprimés. En 1995, il réitère son exploit et en 2002, il est, on s'en souvient, au second tour de l'élection présidentielle. Et puis c'est aux Pays-Bas que ce mouvement se propage et ainsi de suite. Aujourd'hui, presque tous les pays de l'Union européenne sont touchés par le succès de ces partis. Ces partis peuvent être qualifiés de populistes. Alors ça n'est pas non plus, Monsieur le Président, le sujet de la communication et ça appellerait beaucoup de commentaires. Mais je retiendrai cette qualification au sens où ces partis portent un discours anti-système, hostile à l'Union européenne, dénonçant la démocratie représentative, les élites accusées d'usurper le pouvoir et de spoiler les peuples, mais aussi, parce qu'on ne peut évoquer ce sujet sans y arriver, mais aussi la question de l'immigration, l'immigration en général, et pour l'Europe, compte tenu de l'origine des migrants, presque exclusivement issus de pays musulmans, les relations avec l'islam, plus particulièrement avec l'islamisme, et ses extensions les plus problématiques, le communautarisme et jusqu'au terrorisme. De vives tensions interculturelles se sont installées au cœur de l'Europe. La pression migratoire, les limites, puis les échecs de l'intégration, l'activisme islamiste travaillent presque toutes les sociétés européennes. Les partis traditionnels de gauche, mais aussi de droite, sont restés aveugles ou inertes devant ce phénomène, pourtant pointé dès 1968 par un député conservateur britannique, Enoch Powell, dans un discours retentissant qu'il paya d'une ostracisation violente et définitive. 20 ans plus tard, en Italie, Oriana Fallaci lançait les éléments d'une nouvelle doctrine populiste, repris 10 ans plus tard par le néerlandais Pim Fortuyn, puis par tous les populistes européens. La thèse était inversée. Les populistes, à partir de ce moment-là, se présentent comme les défenseurs du corpus libéral européen, contre la menace liée au phénomène migratoire en général et l'islamisme en particulier. La thèse que je défends est celle de l'avènement d'un nouveau populisme que je qualifie de populisme patrimonial. Il est porté par la perception d'une double menace que les partis traditionnels ne veulent pas considérer ou à laquelle ils ne savent pas apporter de réponse. D'un côté, la globalisation, le vieillissement démographique et les transformations du régime économique nourrissent la crainte d'une perte du patrimoine matériel, le niveau de vie. De l'autre côté, autre figure de la globalisation, les phénomènes migratoires, les échecs de l'intégration feraient peser une menace sur le patrimoine immatériel, le style de vie, incluant la civilité traditionnelle, les relations entre les hommes et les femmes, la place de la religion dans la société, les relations entre le politique et le religieux, les libertés individuelles en général, la liberté d'opinion en particulier. Ce cycle électoral semble s'être accéléré au cours de la période 2016-2018. Ce nouveau populisme est aujourd'hui en forte progression. Le référendum britannique, débouchant sur la victoire du Brexit en juin 2016, a semblé donner le coup d'envoi d'une nouvelle série électorale accablante pour l'idée européenne. En 2 années seulement, dans un nombre significatif de pays, une partie des électeurs a exprimé une préférence électorale que le référendum britannique a conduit à interpréter comme un rejet croissant de l'Union européenne. Je cite rapidement l'élection présidentielle autrichienne en décembre 2016, les élections législatives allemandes en septembre 2017, en Autriche, octobre 2017, puis en 2018 en République tchèque, en janvier, en Italie, en mars, en Hongrie, en avril, en Slovénie, en juin, en Suède, en septembre. Deux exceptions apparentes, les élections néerlandaises de mars 2017, l'élection française de mars-avril 2017. Commentaire rapide sur ces deux exceptions apparentes. La réélection de Mark Rutte, Premier ministre sortant de droite aux Pays-Bas, qui a contenu les assauts du parti populiste de Geert Wilders, s'explique, je crois, par la prise en compte particulièrement habile des deux composantes de l'opinion européenne. L'attachement à l'euro et à l'Union, la défense et l'affirmation d'un style de vie néerlandais. En France, certes, Emmanuel Macron est élu président, mais le premier tour a vu un événement électoral sans précédent. Le score des candidats hostiles à l'Union a atteint 49%, pratiquement 49% des suffrages exprimés. Quant au second tour, on peut le comparer aisément avec celui de 2002. L'ensemble des électeurs qui ou bien ne sont pas allés voter, ou bien ont voté blanc ou nul, ou bien ont voté pour le candidat populiste en 2017, atteint, selon le mode de calcul, entre 54 et 56%. En 2002, nous étions à 40%. C'est une progression spectaculaire en quelques années seulement. Alors, quid de mai 2019 ? Que peut-il se passer dans quelques mois ? Les élections européennes, lorsqu'on les consulte, confirment notre chronologie. Le total des suffrages en faveur des listes entretenant un rapport d'opposition à l'Union européenne, voire à l'idée d'Union européenne, atteint un premier haut niveau en 1999, confirmé en 2004, suivi par une forte progression en 2009, également confirmé en 2014. Entre 1979 et 2014, le score des listes hostiles à l'Europe a doublé lors des élections européennes, passant de 15% à 30%. J'ai légèrement arrondi, je vous assure, moins d'un point. Les projections que vient de réaliser la Fondation pour l'innovation politique, à partir de l'ensemble des enquêtes d'opinion qui sont faites aujourd'hui en Europe, ces projections nous amènent à considérer qu'un nouveau progrès sera franchi en mai 2019, avec, si les élections avaient lieu aujourd'hui, un score plus proche de 34 ou 35% que de 30%. Si ce score est confirmé, il y aura deux conséquences au moins à retirer. Premièrement, les populistes n'auront pas la majorité en mai 2019 au Parlement européen. Ce n'était pas le plus probable, mais on peut le confirmer. Deuxième conséquence très importante, pour la première fois depuis 1979, les deux grands groupes, le Parti populaire européen et le Parti socialiste européen, pour la première fois, n'auront plus la majorité au Parlement, et il leur en manquera beaucoup, et ils devront combiner, vote par vote, fabriquer des élections, des majorités qui ne seront pas simples à obtenir. Nous allons entrer certainement dans une nouvelle histoire du Parlement européen. En votant pour les populistes, les Européens, au fond, expriment un point de vue que l'on peut interpréter comme le rejet de l'Union européenne. Mais faut-il voir dans ces résultats une telle demande ? Pour terminer, je voudrais comparer, mettre en relation ces résultats électoraux et ce que nous disent aujourd'hui les sondages d'opinion réalisés en Europe, en particulier l'Eurobaromètre. Selon le dernier Eurobaromètre, publié le 17 octobre 2018, 62% des Européens estiment que l'appartenance de leur pays à l'Union européenne est une bonne chose. C'est un record depuis 1989. De même, 68% des Européens pensent que leur pays a bénéficié de son appartenance à l'UE, ce qui est un record depuis 1983. 66% souhaitent que leur pays reste membre de l'UE. 64% sont attachés à la monnaie européenne et ne veulent pas la perdre. Comment interpréter cet apparent mouvement contraire qui voit d'un côté les Européens plébisciter l'Union dans les sondages et de l'autre côté donner plus de suffrages aux partis populistes ? Ne faut-il considérer que les votes populistes et élire le retour des nationalismes ? Ne faut-il considérer que les enquêtes d'opinion et y voir l'attachement réaffirmé des Européens à l'Union européenne ? Le choix de l'interprétation a évidemment des conséquences très lourdes sur la suite. Je vous propose une troisième interprétation. Fortement attachés à leur pays, la plupart des Européens ne croient pas qu'ils réussiraient mieux dans la globalisation, seuls, face à la Chine, face au réchauffement climatique, aux phénomènes migratoires, aux GAFAM, au terrorisme, etc. C'est la raison pour laquelle les Européens ne veulent pas quitter l'Union. Cet attachement est pragmatique et solide. Il s'illustre particulièrement bien dans l'attachement à la monnaie européenne, au nom du patrimoine matériel que les individus, que les familles souhaitent préserver, partager et transmettre. Si l'évocation d'un retour à la monnaie nationale n'est pas sans réveiller quelques nostalgies, qui est sans doute aussi celle du temps qui passe, il y a une petite minorité seulement pour souhaiter l'abandon de l'euro. C'est au point que presque partout, au sein de la zone euro, les populistes ont choisi de modifier leur discours, plus ou moins discrètement, afin de ne plus menacer l'euro, pour ne pas dresser devant eux un obstacle infranchissable. En France, comme ailleurs dans la zone euro, le Front républicain n'opère plus pour faire barrage aux populistes. Si les populistes sont tenus aux lisières du pouvoir, ou s'ils voient leur action contenue lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est parce que leurs propres électeurs ne sont pas majoritairement favorables à l'aventure vertigineuse d'un exit radical, celui consistant à quitter à la fois l'euro et l'Union. Ce n'est plus le Front républicain, mais un front monétaire qui protège l'Europe et les pays qui la composent contre une poussée populiste. En votant pour les populistes, les Européens n'appellent pas un repli nationaliste. Ils espèrent le retour de la puissance publique, ce qui est bien différent. Oui, c'est une demande d'autorité, une demande d'efficacité publique. Non, ce n'est pas une demande de nationalisme ou d'autoritarisme. Cela n'est pas encore le cas. On ne peut laisser penser aux Européens qu'ils iront seuls affronter les océans agités de la globalisation, qu'ils devront aborder ce 21e siècle sans frontières, sans protection, sans puissance publique. On ne peut leur demander de vivre le 21e siècle sur un continent à la fois désarmé ou désorganisé et ouvert. Ce n'est pas recevable du point de vue des gouvernés. C'est ce que disent ces votes qui ne sont disruptifs que parce que les grands partis de gouvernement ont abandonné à des organisations au départ marginales des thématiques fondamentales. Les Européens demandent à leur puissance publique, nationale et commune d'accomplir la part du contrat qui revient à toute autorité légitime en contrepartie de l'obéissance des gouvernés. Assurer l'ordre et la sécurité d'où procède toute liberté, comme le dit dans une superbe clarté lapidaire l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La demande de puissance publique est une demande de souveraineté. Mais il existe, et c'est ma conclusion, Monsieur le Président, deux souverainetés. La souveraineté nationale et la souveraineté populaire. La demande que les citoyens formulent à l'adresse de l'Union européenne est une demande de puissance publique. Elle recouvre l'exigence d'un pouvoir capable de protéger, à commencer par ses frontières, mais aussi d'offrir aux Européens l'accès aux promesses du monde, en déployant toutes les puissances dont nous sommes encore les détenteurs par d'ambitieux projets en matière de transport, d'énergie, de télécommunications, d'innovation, etc. Vouloir doter les Européens d'une puissance publique n'implique nullement une dérive autoritariste ou nationaliste. Vouloir dimensionner la puissance publique à l'échelle du monde n'implique pas davantage l'effacement des nations. Ce n'est qu'en apparence que la construction européenne s'oppose à l'idée de souveraineté nationale. En réalité, elle en est devenue la condition de possibilité. Le rassemblement des souverainetés nationales trouve sa plus haute justification dans le but d'enfanter une puissance publique au service de peuples librement associés. La construction d'une souveraineté européenne se présente comme l'unique et dernière chance de peser sur le cours de l'histoire. Ce que nous disent les peuples d'Europe, c'est que le choix n'est plus entre l'Union européenne ou la souveraineté nationale, mais entre la perte de leur double liberté dans l'aventure séparatiste ou la régénération de la souveraineté populaire dans l'affirmation d'une puissance publique européenne au service des deux souverainetés. Au fond, l'opinion européenne exprime le désir des Européens de rester maîtres de leur destin. Voir dans cette demande un appel au nationalisme est à la fois risqué de donner à penser que l'on adresse une fin de non-recevoir à une demande légitime et prendre le risque, en ne répondant pas, de faire advenir ce qui finalement n'existe pas, à savoir un courant nationaliste en Europe. Je vous remercie, Monsieur le Président.